Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, ou l'agriculture racontée par ceux qui la font. Nous nous rendons aujourd'hui à la ferme d'Alcas, sur la commune de Saint-Jean et Saint-Paul, où Émilie et Alexandre nous accueillent. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec Alexandre.
Donc là, il y a combien de brebis à peu près ?
Alors là, il y en a 136 qui sont à la traite,
d'accord,
et 99 qui ont ou qui vont avoir des agneaux.
Là, dans un hangar, là, 136 plus les agneaux.
Ouais.
D'accord. Et donc, les enclos là que tu as fait, c'est déjà calculé en fonction du nombre de bêtes que tu peux mettre à la machine ?
Non, là, c'est... Non, le calcul, là, c'est juste celles qui ont des agneaux d'un certain âge.
Ah, tu leur prends pas le lait, celle-là ?
Si, une fois par jour, pour ce qu'on appelle la repasse.
Ah.
C'est-à-dire qu'on enlève l'excédent de lait.
D'accord.
Et ça permet aussi de stimuler la production, et ça permet aussi de vérifier que tout va bien.
D'accord.
C'est très très important, ça.
Comment tu fais pour vérifier que tout va bien ? Si le lait, la qualité du lait, tu veux dire ?
C'est l'expérience.
Faut bien que ça serve à quelque chose.
Ah ouais, quand même. Non, c'est le... Est-ce que le pied est dur ? Est-ce que le pied n'est pas dur ? Est-ce que la traite se passe bien ? S'il y a des grumeaux, s'il n'y a pas de grumeaux, voilà, on
D'accord.
voit tout ça.
Okay.
Et si on a un doute, on a un réactif en salle de traite, où on tire un peu de lait, on met le réactif et on voit comment le lait se comporte. Et là, des fois, ça peut expliquer ou pas. Si on arrive à le voir avant, tant mieux. Si on le voit après, ben, on comprend des fois que les agneaux, ils aillent moins bien.
Et donc là, tu vas traire celle-là ?
Je traire celle de droite.
Celles de droite, ok. Celles qui sont occupées à manger, là, à monter
c'est
pour
ça.
Manger le fruit.
Des chèvres.
Et toi, t'as toujours fait dans la brebis ?
Ça dépend toujours.
Ah ben, depuis que tu fais de l'agriculture, disons
Après les études, oui.
D'accord.
Il y a une longue période d'études, donc... Voilà.
T'as fait d'autres choses avant de faire agriculteur ?
Ah oui.
T'as fait quoi ? Ouh là, ça va. Question sans fond.
Ça tournait toujours autour de l'agriculture, mais c'était pas en France, c'était en Espagne, aux États-Unis, pas mal.
Mm-hmm.
Donc d'abord, ouais, dans une ferme aux États-Unis, puis après dans la recherche. On était créateur et multiplicateur de variétés de soja.
D'accord.
Dont des OGM.
Ah ouais. T'as bossé pour les OGM. T'étais
pas
quoi, ingénieur agronome, quelque chose comme ça ?
À l'époque, là-bas, j'étais juste petite main.
Petite main, d'accord.
Petite main très qualifiée.
Voilà.
Mais payée comme petite main.
D'accord.
C'était des échanges scolaires, soi-disant. Mais bon, on était rémunérés quand même un petit peu.
D'accord. Ça,
sur la base du tarif mexicain, on était rémunérés.
Ah oui, d'accord.
Ah oui, on a fait les Mexicains pour les Américains.
Ah ben voilà. Et pourquoi t'as choisi de faire de la brebis, alors ?
Un lien au territoire, déjà. La brebis, c'est la bête. Enfin, c'est là, quelque part, c'est pratiquement la seule chose que l'on peut faire dans le sud d'Aveyron. Mmh. Puis ça tombe bien, parce qu'il y a Roquefort, il y avait la laine, qu'on est en train de pousser
de remonter,
à
ref,
voilà,
ouais.
avec la filature Colbert. Il y a le cuir, quand même, à Millau. On est en train de... Il y a une association qui est montée pour faire reconnaître au sein de... En termes de patrimoine mondial à l'UNESCO. Tous ces savoir-faire, depuis l'élevage jusqu'à la fabrication de gants. Donc on est aussi là-dedans. Voilà, c'est bien adapté au territoire.
Mais donc, tu fais du lait pour Roquefort, plus...
Oui.
Plus
une transformation, ouais.
Et deux activités.
Ouais.
Ça permet d'avoir une certaine stabilité, Roquefort, peut-être,
hein. Roquefort, il y a tout un aspect social derrière. Il y a le travail en commun, le groupe, le... Grosso modo, en termes d'élevage de brebis, Roquefort, c'est ce qu'il y a de... En termes de fabrication de connaissances, j'entends, c'est ce qu'il y a de mieux. On est à la pointe de la connaissance à Roquefort. Bon, des fois, il y a quelques dérives aussi, mais on est quand même à cette pointe-là. Et du coup, c'est extraordinaire. Puis c'est quand même la première appellation, en tout cas d'origine laitière, parce que c'est en même temps que Champagne, en 1925. Donc c'est quand même ancré depuis un petit moment. C'est un produit magique au lait cru. Et le lait cru, c'est le... c'est le gage de enfin, c'est le Graal quand on est éleveur, laitier. Ouais. Travailler en lait cru, ça veut dire qu'on a une maîtrise sur, sur tout ce qui pourrait faire que le lait soit pas propre à la consommation.
C'est beaucoup plus exigeant que les autres transformations.
Il y a plus de risques derrière, donc forcément, il faut qu'on soit beaucoup plus exigeant.
Ouais. Ça vous fait combien de production de lait en ce moment, par exemple ?
Là, on est en fin de lactation pour les brebis qui sont en lactation. Donc, on est à 1 demi-litre de lait par jour.
Par brebis ?
Par brebis, oui. Ouais. Et les autres, comme on le mesure pas encore, parce qu'on n'est pas collecté sur ce troupeau-là, ouais. Donc c'est difficile à dire.
D'accord.
Et puis, ça dépend... En fait, plus les agneaux ils vont grandir, et plus ils vont, heureusement, plus ils vont manger, vont consommer de lait, donc... Forcément, on ne le verra pas. C'est difficile à quantifier.
Ouais, donc il y a un racloir qui passe sur le tapis et qui fait tout le tapis.
Voilà. Un quoi ? Un raccord ?
Un racloir, j'ai dit, mais c'est pas vraiment ça. Non, c'est le tapis qui s'en va.
C'est la bande du tapis qui passe par-dessous, en fait, qui part dessous. Ouais. Et au bout de la bande, il y a effectivement un petit tampon.
Ouais.
Et là, on fait revenir ce que l'on appelle les refus. C'est ce qui est mis en excès.
D'accord.
Et ça, comme s'il y a encore du très très bon,
tu le récupères.
On le récupère, on va le donner aux autres qui n'ont.
D'accord.
Celles qui n'ont pas les mêmes besoins en termes de là où elles en sont d'un point de vue par rapport aux agneaux, par rapport à tous ces éléments-là.
Et donc une fois que le racloir est là, tu remplis ici et ça repart dans l'autre sens pour.
Voilà,
pour
on a cette grosse machine là dans laquelle contient le fouet en vrac. On vient se garer devant les tapis et on distribue.
Ah oui, une grosse machine donc qui est pilotée par un rail au sol.
C'est ça.
Et qui s'arrête à chaque fois devant les tapis.
Alors c'est nous qui l'arrêtons.
Ouais, d'accord. C'est pas automatisé encore. Hein.
Non, c'est pas le but.
Mais il va falloir s'y mettre.
C'est trop cher. Ouais, d'accord. Combien tu as ?
Ah, je sais pas. Ah, demande des subventions, je sais pas moi.
Bonjour. Est-ce qu'on peut vous aider ?
On vient du moulin en dessous, on a dit qu'il y avait la traite à voir.
Ouais.
Ah non.
Ça attire du monde, c'est bien. Bienvenue, bonjour.
Venez. Si vous voulez. Si vous voulez. On est une ferme ouverte, du coup il y a des.
D'accord, et les gens ils viennent vous visiter.
Voilà. Vous pouvez venir.
Merci.
Alors là on est sur le moment où on va donner à manger aux brebis. Donc je vais vous demander de vous tenir dans un espace un peu. Surtout de ne pas vous faire écraser par la machine.
D'accord.
Ah, ok.
Voilà, c'est tout simple.
Ah, okay. Ça me va.
Vous voulez venir par là ?
Ouais,
c'est bon.
Vous
suivez. Donc la machine avance sur son rail. Une grosse machine rouge avec marqué Altec. Les brebis ne nous regardent même plus. On dirait un conducteur des cheminots. Oh là là, c'est énorme comme machine. Ah, les brebis sont faites. Alors. Et donc il y a une espèce de poids de vis qui fait tomber l'herbe. En même temps, il y a un autre petit silo qui fait tomber des granules dans l'herbe. Et le tapis avance. Bien poussiéreux. Donc les brebis n'attendent même pas que les clapets s'ouvrent pour venir manger. Elles passent par-dessus, elles passent la tête par-dessus.
Elles font
l'apéro. Ouais. Elles grignotent déjà.
Ouais, ça arrive, d'accord.
Ouais.
On dirait une locomotive.
C'est ça,
alors en fonction, il y a des gens qui sont plus proches des bateaux, ils disent une péniche.
Ah, ouais, d'accord.
Voilà, chacun a sa perception.
Ouais.
Vous voulez venir avec moi voir le.
Ça vous dérange pas, hein.
Faut juste me promettre de ne pas sauter.
Non, on saute pas. D'accord.
Il y a du matériel en bas, ça m'a pas d'arriver.
Vous voulez passer en premier peut-être pour.
Ouais, bah.
Allez-y, c'est vous.
Juju est en
bas de quoi. Monsieur les journalistes, carte de presse.
Ah ouais, une carte de presse, vraiment ?
Non, tu rigoles quoi ?
Voilà.
Alors, Kézako. Qu'est-ce que c'est cette grosse bécane?
Ça, c'est une bécane extraordinaire. Elle a un coup, mais...
Ça, c'est la passerelle? Non.
Non. Normalement, non.
Ah, vous avez un matos d'équipé un pont, ça.
Oui.
Ça permet de garder notre dos en bon état.
Ouais.
Hop. Ferme la porte et la lumière s'allume. Donc, c'est un énorme bras. Oh là là, suspendu en l'air. Alors ça, c'est... Alors là... Là, c'est...
J'adore.
On se croirait dans un film de science-fiction, tu sais.
Ah ouais. Exactement.
Oh là là. Alors, il vole dans les airs. Il vole dans les airs, il est à 5 mètres de haut. Il y a un bras avec deux griffes pour saisir le fouet et le mettre dans la grosse bécane dont il s'est servi pour nourrir les brebis. C'est impressionnant, donc les rails sont... La machine tient l'air sur des rails qui tiennent à des poutrelles, lambda. Et je pense que la bécane sur laquelle il est, elle pèse au moins une tonne. Voilà, et avec son bras, il va chercher le fouet. Une contrebas. Une grosse quantité de fouet. Voilà. Il prend pas le même fouet, il fait les mélanges. Ah, ça valait le coup de venir, hein, quand même.
Ah ouais.
Ouais, c'est ça. Comme dans les fêtes foraines, ouais, c'est ça. Non, mais sauf que lui, il gagne à chaque fois.
Ah,
ouais.
Ouais.
Ah, bien trop. Et donc une fois qu'il a rempli, il tasse, toujours avec la fourche de son engin stratosphérique. Oh putain, en plus, le bras est hyper articulé, j'avais pas vu. Il en profite même pour nettoyer et tout, la cuve avec. Allez, regardez. Il est en approche. Comme un hélicoptère un peu. Oh. Et ben, impressionnant.
Impressionnant.
Parce qu'on fait une agriculture qui est non conventionnelle, dans le sens où ben, il n'y a plus d'antibiotiques depuis 10 ans, il n'y a plus de vaccins depuis au moins pareil, il n'y a plus d'antiparasites depuis 5 ans. Voilà.
Vous êtes labellisé bio, ouais. AB.
Oui, au-delà même, on est même Déméter.
Déméter, d'accord.
Ah, ça, ça n'est pas du tout.
Ah, ben, il y a plusieurs degrés dans le marché.
C'est, ouais. C'est... Pour aller vite, on peut dire que c'est du super bio. Oui, on maîtrise en fait la chaîne de A à Z de plus en plus. Vous avez vu, on distribue, à cause de la sécheresse et du manque de foin, on distribue aussi de la luzerne déshydratée. Donc ça, c'est pas fait sur la ferme. Ça, c'est acheté. Et on distribue aussi un complément azoté pour la protéine, qui là aussi est acheté. Et je commence à être de plus en plus exigeant sur la qualité de ce qui rentre sur la ferme, pour plein de raisons. Mais notamment, je prends l'exemple d'un orchestre philharmonique, 120, 130 instruments. S'il y a un instrument qui ne joue pas tout à fait bien accordé, les mélomanes vont l'entendre. Il y en a d'autres qui ne l'entendront pas,
oui.
Mais les mélomanes vont l'entendre. Et moi, je l'entends un peu trop fort, donc du coup, là, je suis en train de chercher...
Ouais, le juste équilibre.
Surtout le bon produit au bon moment.
Ouais.
C'est le triangle, c'est très bien, mais s'il joue tout le temps, ça ne sert à rien. C'est au bon moment, au bon tempo, et puis bien accordé.
Eh bien. Donc on voit les petits bébés qui têtent la maman. Donc on mange. Un petit mot pour Radio Saint-Afrique. D'accord. Donc, à un enclos, il y a la place de laisser passer une brebis à la fois. Et elle se quiche, là il y en a une qui est en train de monter sur les autres. Et elle se quiche pour pouvoir se présenter à la machine à traire. Donc, elle est fichée. Alors, du coup, elles passent par en dessous. Elles arrivent au milieu. Et donc, à chaque fois, il faut attendre le bon tour pour arriver dans le petit enclos. Voilà. Et Alex, c'est quoi les céréales que tu leur mets là ?
Alors là, c'est mélange avec plein de choses et il y a un peu de chaud.
D'accord. Parce qu'elles ont l'air d'adorer ça. Elles ont l'air d'adorer ça.
Vu que par ici, il n'y en a plus. Oui.
D'accord.
Donc nous, on a des béliers qui montent à la tête.
Ah ouais, ah c'est... Donc tes brebis se précipitent dans leur enclos parce qu'au bout, il y a une petite mangeoire avec des graines. Les graines tombent automatiquement dans l'écuelle quand la machine tourne. Voilà. Et là, ça y est, les premières brebis sortent. Donc grosso modo, quand elles ont fait quasiment le tour, le portail s'ouvre et elles redescendent. Et hop là, et après elles redescendent et elles vont dans l'enclos. Ok, il y en a une qui traîne un peu là. Ah. Bon, j'y vais, merci beaucoup Alex. Je sais pas, ouais. Merci beaucoup. Hein.
Avec plaisir.
Au revoir.
Avec plaisir, au revoir.
Que ma vie s'accorde.
Alors bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ?
Alors je m'appelle Émilie Vialette,
oui.
J'ai 38 ans et je suis, alors je ne sais pas si je peux dire agricultrice parce que c'est plutôt mon mari qui est vraiment avec les animaux.
D'accord.
Mais en tout cas je suis associée avec lui en GAEC à la ferme d'Alcas sur la commune de Saint-Jean et Saint-Paul.
Depuis combien de temps vous êtes ici ?
Alors lui, justement, on vient de faire l'arbre généalogique, il y a 11 générations de paysans avant.
D'accord, mais ici à Saint-Jean-d'Alcas
Saint-Eulalie-de-Cernon, donc c'est vraiment des racines très locales.
Ouais.
Lui, mon mari l'a repris en 2008, son père était paysan donc, et moi je l'ai rencontré en 2011 et je me suis installée officiellement en 2018.
Ah oui, t'as mis du temps.
Oui, parce qu'entre-temps, j'ai fait autre chose. J'étais professeur au lycée agricole.
Mmh.
Et voilà.
Ici, mais... à la Cazotte ?
Non, j'ai pas pu avoir un poste ici. J'étais un peu plus loin.
D'accord.
Mais voilà, ça me satisfaisait pas énormément. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit stop. Et j'ai été salarié pendant 2 ans sur la ferme, avant de m'installer vraiment avec le parcours classique.
Et donc ça, c'est la ferme familiale du côté de ton mari ?
Exactement.
Alors, comment est-ce que tu es venu toi à l'agriculture ? Parce que lui apparemment il n'a pas vraiment choisi.
Ben moi j'ai rencontré un paysan et comme un paysan c'est pas délocalisable, ben, c'est moi qui me suis délocalisée.
Ah ben voilà.
Voilà, quand j'étais enseignante en fait j'avais fait un stage sur une ferme et il se trouve que je l'avais fait à Potensac et je faisais du fromage, je le vendais sur les marchés et on s'est rencontrés sur un marché.
D'accord.
Mais à cette époque-là, moi j'étais plutôt en mode je vais être enseignante en lycée, tout ça. Et c'est qu'après où j'ai fait mes années d'enseignement et puis j'ai arrêté et du coup je l'ai rejoint.
Vous avez plusieurs activités sur la ferme.
Exactement, on fait de l'hébergement,
oui.
Des visites et maintenant des yaourts.
Des yaourts.
Et bientôt de l'accompagnement de producteurs puisque je suis en train de lancer une activité qui s'appelle Essentiel où on va faire un peu partager, profiter, mettre à profit toutes les galères qu'on a eues sur la ferme parce qu'on a traversé un peu des épisodes compliqués.
Ouais.
Donc voilà, ça sera une activité de prestation de services.
D'accord. Et donc la ferme, un petit peu de technique, combien d'hectares y a-t-il à peu près ?
168 hectares déclarés à la PAC, 178 pardon déclarés.
D'accord.
À la PAC,
ouais.
À peu près 90 vraiment d'utilisables qu'on utilise en prairie et en céréales. Voilà, et le reste c'est du COS.
C'est tout d'un seul tenant ?
Pas du tout, on a la ferme en deux morceaux. Uh-huh. On a une partie ici à Saint-Jean et le reste à Mascourbe, sur la commune de Saint-Félix-de-Sorgues.
Donc pas c'est trop loin, mais...
C'est 4 km, voilà, c'est pas trop loin, mais c'est pas à côté non plus.
Ouais.
Donc on est obligé de jongler, par exemple, sur l'estive des brebis.
Mmh.
Voilà, il y a un moment où on les amène là-bas, donc il y en a une deuxième hangar pour les... une deuxième bergerie.
Mmh.
Voilà, on navigue entre les
D'accord,
deux.
D'accord, vous avez un hangar déjà là-bas.
Ouais.
Et vous faites comment la transhumance ? Vous la faites dans des camions ou
non,
avec
un berger ?
Non,
à pied, ouais. Okay. Ben là, justement, on est le 28 février et dans 4 jours, arrive dans la bergère qu'on a recrutée cette année.
D'accord, vous avez une bergère ?
Cette année, pour la première fois, ouais. Parce qu'en fait, on a depuis peu, comme on traîne maintenant toute l'année, on a une conduite du troupeau complètement différente au niveau de la gestion de l'estive. Et du coup, on va les faire pâturer à des moments qu'on ne faisait pas pâturer avant.
Mmh.
Et donc, pour ça, on a pris vraiment une bergère parce qu'on s'est rendu compte que c'était... berger, c'est un métier. Faire manger, c'est un métier. Et finalement, d'avoir quelqu'un qui peut les garder et qui valorise des espaces qu'on ne valorisait pas avant, finalement, c'est vachement bien. Et comme, en plus, nous, en Déméter, on est contraints à 80% d'autonomie alimentaire sur la ferme, c'est très important pour nous de bien valoriser toute la ressource en herbe qu'on a.
Toutes vos terres, toutes les terres que vous avez, elles sont à vous ou vous faites du fermage ?
Non, on a pas mal de fermage. On loue pas mal de sectionaux sur Saint-Félix en particulier.
Et à qui vous vendez vos productions ?
Alors, une partie du lait qui part à Société des Caves pour le Roquefort, voilà.
Ouais, et les yaourts ?
Et les yaourts, alors on a plusieurs réseaux. Sur le réseau magasin, donc on vend à la Biocoop, à Saint-Aff, à Millau.
Mmh.
Puis on a un gros client, le Locavorium à Montpellier.
Le
Locavorium, c'est D'accord. un magasin, c'est un supermarché de produits de producteurs.
D'accord.
Voilà. Et après, on a un réseau en circuit long parce qu'on a la chance d'avoir un agrément sanitaire qui nous permet de vendre à des revendeurs.
Mmh.
Donc là, on a 2 distributeurs déjà sur Rungis qui revendent à des magasins bio sur Paris.
D'accord.
Et là, on vient de se faire référencer il n'y a pas longtemps chez un distributeur en Lozère qui est spécialisé sur la distribution auprès des épiceries de proximité en Aveyron et dans les départements limitrophes. Et là, on en pourparlers, ça c'est incroyable, avec un distributeur en Allemagne.
Eh ben.
Voilà, qui va nous vendre à l'international.
Et vous arrivez à suivre au niveau de la production ?
Oui, pour l'instant,
il va
falloir
augmenter un peu la production, quoi.
Bah, en fait, c'est surtout qu'on a la marge de manœuvre de basculer de la laiterie à notre production en nous, voilà.
Ouais.
Donc c'est plutôt là qu'on va mettre le curseur, quoi.
Bon, est-ce que vous en vivez bien de votre ferme ? Alors, est-ce que vous avez le temps de partir en vacances? Est-ce que vous pouvez changer la chaudière quand elle tombe en panne?
Donc vivre bien, c'est quoi? C'est prendre des vacances ou c'est changer la chaudière?
C'est avoir du temps et avoir de l'argent, quoi. Je pense que c'est ça, surtout.
Alors, en vivre bien, en fait, on en vit tout à fait convenablement. Mmh. Après, on est passé vraiment par des épisodes très compliqués il y a quelques années. Donc on est encore en train, j'ai envie de dire, d'atteindre tranquillement l'équilibre. Mmh. Et de toute façon, c'est pas... En fait, la ferme, elle a beaucoup d'années, mais en fait, comme on a investi de nouveau en 2018, c'est comme si on redémarrait de zéro quelque part.
D'accord.
Et il y a toujours un temps avant qu'on ait rentabilisé, amorti, etc. C'est pas tout de suite qu'on vit bien. Quand on lance une activité, c'est normal. Donc je pense qu'on sortira vraiment la tête vraiment de l'eau d'ici 4-5 ans, d'accord, qu'on ait remboursé une partie des emprunts.
Voilà.
Mais après, entre-temps, nous, ça nous suffit amplement. Et après, par contre, pour les vacances, c'est plus compliqué parce qu'on traite à l'année, on n'a pas beaucoup de temps disponible. Et comme en plus, il y a beaucoup de main-d'œuvre qui ne fait que passer, on a du mal à fidéliser les gens et à les garder longtemps.
Ouais.
Je dirais plutôt les garder longtemps que les fidéliser. Et donc, former quelqu'un, ça prend du temps. Pour lui confier la ferme, ça prend du temps. Et en fin de compte, c'est pas facile. Le temps que les gens soient formés, eh ben, ils vont partir, quoi.
Ouais.
Et donc voilà, c'est pas... les vacances, c'est pas la priorité pour l'instant.
Donc, parce que vous avez plusieurs salariés sur la ferme.
On a deux personnes salariées et là on va avoir la bergère en plus, quoi.
Ouais. Ouais. Mais c'est des gens donc qui restent un an et puis, ou deux ans et puis
ouais,
après,
ce qu'on s'est rendu compte, c'est beaucoup ça. C'est un an et demi, deux ans et après...
Les agriculteurs, ils me disaient qu'il faut à peu près trois ans pour bien connaître le métier.
Ben ouais.
D'autant de voir le recul, parce que c'est des échéances à long terme quand même, ça se calcule à long terme.
Bah, une campagne, c'est un an, quoi. Je veux dire, quand on sème et qu'on récolte, il y a une année, quoi. Ouais.
Ce métier, puisque je vois que vous avez de jeunes enfants,
oui.
Vous aimeriez peut-être qu'ils reprennent la ferme. Est-ce que vous leur conseilleriez le métier?
Oui, absolument. En fait, je leur conseillerais surtout de faire ce qu'elles aiment.
Oui.
Voilà. Et quand on aime... profondément, on est prêt à tout en fait.
Ouais.
Donc ce métier, c'est par contre, ce que je dirais vraiment, c'est que c'est un métier passion. On vient pas là pour gagner de l'argent, parce que clairement aujourd'hui l'agriculture, c'est un secteur qui est devenu hyper capitalisé, où il faut investir énormément d'argent pour une rentabilité qui est même pas énorme derrière.
Ouais.
Donc venir là en se disant je vais me reposer, je vais gagner de l'argent, non, clairement pas. Ouais. Par contre, c'est des métiers où on a la satisfaction d'être au contact des éléments, d'être dans une certaine liberté, de faire quelque chose où nous voilà, on accueille énormément de gens sur la ferme et on voit les papillons dans les yeux des gens et c'est hyper satisfaisant ça. Donc voilà, moi c'est un métier que je fais avec mon cœur et du moment que les gens aiment ce qu'ils font, oui, je leur dirais faites-le, quoi.
Ouais. Alors la grosse question philosophique, attention. Émilie, ça fait combien de temps que tu travailles dans l'agriculture? Toi, tu m'as dit depuis 2007.
On va dire depuis 2015.
Depuis 2015. Est-ce que tu as une idée? Alors peut-être qu'Alex a plus d'idées de ce que pourrait devenir l'agriculture dans les années à venir. Au moins sur le secteur du Sud Aveyron, quoi.
Alors moi, la réponse que je te ferai, parce que moi sur la ferme, je gère la partie gestion, compta, papier, tout ça. Et je vois que l'agriculture aujourd'hui, c'est pas la petite entreprise d'il y a 50 ans, quoi. Ça devient vraiment des entreprises à gérer. Donc je pense que l'agriculture, elle va devenir extrêmement, comment dire... il va falloir être très rigoureux sur les marges, en fait. Tu vois, avoir un contrôle de gestion très rigoureux. Parce que clairement, quand tu investis beaucoup et que tu as une petite rentabilité derrière, tu as intérêt à bien gérer ton truc. Donc, elle va devenir très économique, si ce n'est qu'elle est déjà pas mal, mais encore plus. Donc, il faut devenir très technicien, très pro. Et je pense qu'elle va devenir de plus en plus en montée de service. Tu vois, comme tout monte en gamme, je pense que l'agriculture et les services associés à l'agriculture qu'elle va proposer, l'accueil, l'hébergement, les produits, je pense que tout va monter en gamme et qu'on va devenir vers une agriculture de plus en plus saine. Je pense que le bio, ça va devenir une base en fait derrière. Les gens n'accepteront juste plus de manger des pesticides. Donc tout va monter en niveau en fait. Donc je la vois de plus en plus verte, de plus en plus pro, de plus en plus créatrice de valeur ajoutée par la prestation de services qu'elle amène à côté. Voilà.
Ça va faire monter les coûts, les prix de la nourriture.
En fait, je pense qu'il y a un gros souci, enfin, il y a un gros enjeu avec la PAC, c'est-à-dire que la PAC, elle est en suspens quand même. Donc tout le monde se prépare aussi à potentiellement devenir autonome économiquement. Donc je ne dirais pas que les prix bas qu'on a aujourd'hui, on les a parce qu'il y a la PAC. Donc je veux dire, s'il n'y a pas de PAC, c'est juste le juste prix. Enfin, vous voyez, c'est ce qui n'est pas payé d'un côté sera payé de l'autre, en fait. Voilà.
Ouais.
Donc avec ou sans, enfin, je ne sais pas si les prix augmenteront, mais si c'est pas donné par le biais d'une subvention, voilà, le prix sera telle qu'il devrait être.
Mais pour toi, donc, il ne faut pas se contenter de faire l'agriculture à la papa.
Non.
Mais essayer d'apporter de la valeur ajoutée.
Voilà, j'aurais pas dit comme ça, mais c'est ça. On peut plus se contenter de faire de la valeur ajoutée. Je pense qu'il faut mettre du service vraiment derrière. Et en plus, ouais, c'est ce que les gens attendent, c'est ce qui marche le plus. Ouais, les gens vont se dire, je ne fais que parler de marge, mais bon, moi, je l'ai su et je pense que c'est très important. Ouais. Et clairement, un hébergement en roulotte, c'est des prestations qui sont créatrices de valeur ajoutée.
Et parce que l'agriculture, tu as quand même le côté production, transformation et vente.
Oui.
Vous faites les trois, vous.
Oui.
Et donc, ça prend beaucoup de temps. Est-ce que c'est pas aussi un des avenirs de l'agriculture? Parce que je vois pas mal de gens. Ceux qui s'en sortent le mieux, c'est la vente directe, souvent. Alors après, ils n'ont plus beaucoup de temps pour eux. Et ils sont obligés de cumuler plusieurs fonctions.
C'est une question très complexe, la vente directe. Parce que si tu prends en compte vraiment tout le temps que tu passes à vendre ton produit, alors ok, évidemment, tu fais une marge plus importante. Mais quand tu prends tout cumulé, va faire un marché entre le temps de préparation, de tenue, de sortie, de revenir. Moi, j'ai fait le calcul. Là, justement, parce que comme on passe chez des distributeurs, j'ai bien tout regardé. Et honnêtement, alors certes, chez un distributeur, je perds de la marge. Mais en même temps, je mets ma palette, ça part au transporteur, c'est terminé.
Ouais.
Et tu vois, je l'ai raisonné comme ça. Moi, le temps que je n'ai pas passé sur un marché à vendre un produit à faible rentabilité, je vais gagner ce temps-là pour aller vendre du service où là, je vais faire de la marge derrière.
Ouais.
Et moi, je le vois vraiment comme ça, c'est-à-dire je préfère clairement accompagner des agriculteurs parce que ça, c'est quelque chose qui en plus me plaît, que d'avoir froid l'hiver sur un marché à vendre un yaourt. Voilà, j'ai vite réfléchi, moi.
Tout ça pour gagner 3 francs 6 sous.
Bah, je dirais pas 3 francs 6 sous, mais si tu veux, quand tu mets tout dans la balance, eh ben, moi, je sais où est-ce que je mets mes priorités. Quoi.
Ouais, d'accord.
Après, il y a des gens qui adorent l'ambiance du marché, qui sont très dans le côté commerçant.
Ah oui,
et je le nie pas, hein, il y a un côté
contact,
très. Voilà, ouais. Très c'est un bénéfice secondaire qui n'est pas estimé en argent, mais qui pour eux est important. Moi, mon bénéfice secondaire, je vais plus l'avoir à accompagner sur la prestation que d'être sur le marché à avoir froid parce que j'ai les pieds qui gèlent très vite.
Comme je te comprends.
Voilà.
Bon, je te remercie beaucoup,
Émilie, merci beaucoup
de m'avoir reçu.
Merci, avec grand plaisir.
Merci à Émilie et Alexandre pour leur témoignage si instructif. Parole Rurale est diffusée tous les mardis à 8h10, les jeudis à 18h et les dimanches à 14h sur les ondes de Radio Sainte-Afrique. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.